Rituel, aujourd'hui, sera question d'un très grand écrivain catholique du XXe siècle, François Mauriac, qui est mort en 1970. Un très grand romancier, on lui a reproché d'être un peu trop sombre, de décrire avec un peu trop d'insistance peut-être, le péché auquel il rêve sans doute que ses personnages s'arrachent. Il a écrit aussi beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, c'est un homme qui a versé à un moment donné dans la polémique. Il est devenu un polémiste important. On a écrit dans Métamorphose à littérature, c'est-à-dire c'est Pierre de Boisdeffre qui a écrit ça, un chapitre consacré à François Mauriac. Il l'appelle Saint François Mauriac ou la dernière colonne de l'Église. Et puis, il n'y va pas de même. Alors, il attaque pas mal le caractère polémiste de François Mauriac. Mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes chez François Mauriac. De toute façon, ces romans, on n'est pas trop sûr si tous ces romans vont rester. Non, tous les romans ne restent pas des grands écrivains. Un jour, il y a un grand éboulement. Hein? Parce qu'il y a une masse de romans qui est vraiment excessive. Hein? Les romans paraissent en quantité presque industrielle. Surnage certains qui gagnent des prix. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui ont gagné des prix Nobel de littérature, qui ont fait gagner à leur auteur des prix Nobel de littérature. Et puis, il y a les collections de ces livres, vous les connaissez probablement, qui se vendent à prix dérisoire dans les bazars, car on a oublié presque tous ces auteurs au travers les décennies. Mauriac l'a remarqué, d'ailleurs. Il dit « Nous ne relisons même pas les romans de nos amis ». Et comment vous voulez-vous relire des romans quand on peut à peine lire ceux qui paraissent? Et on ne parle pas, bien entendu, que de ceux qui comptent, hein? Même ceux des prix Nobel. Quand on essaie de se représenter ce qui va rester dans l'avenir, pour montrer que François Mauriac est un des grands écrivains du XXe siècle. Eh bien, André Rousseau, dans un petit essai très intéressant, met au premier rang, avec raison, son incomparable journal, qui n'est pas comme le journal de Julien Green, aussi volumineux, mais c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, on pourrait parler des volumes de confidences intimes ou spirituelles. Un qui est passionnant, c'est « Commencement d'une vie », »,« Commencement au pluriel ». Il y a « Dieu et Mammon », puis il y a aussi « Souffrance et bonheur du chrétien ». J'en extrais un petit passage, puisque c'était une série d'émissions rencontres et depuis plus de 4 ans consacrée souvent à des vies de saints. Il écrit « Sans doute l'atmosphère du monde nous pénètre. Aucune porte close ne nous défend contre cette atmosphère, contre cet immense refus de notre époque. Oui, nous sommes nés en plein reniement. » Ensuite, il se réfère à Charles Péguy. Il dit, « Péguy se flatte que notre fidélité au milieu d'un tel abandon nous acquiert quelques mérites et pourtant le bonheur du chrétien, c'est le titre, hein? Bonheur du chrétien, souffrance et bonheur du chrétien paru dans le livre de poche, ça se vend très peu cher, il était déjà de l'Académie française à ce moment-là, souffrance et bonheur du chrétien. Alors, il dit, pourtant le bonheur du chrétien n'y trouve-t-il une de ses sources? Parce que notre fidélité au milieu d'un abandon généralisé, ça pourrait nous décourager, mais ça pourrait aussi nous donner des forces. Mais il dit, pauvre fidélité, dans l'universelle infidélité, elle nous aide à reprendre cœur, voilà. Tous les hommes, alors, étaient contre nous et je ne répondais rien. La science, la raison, la foi seule était en moi. Et je vous regardais en silence comme un homme qui préfère son ami. qui préfère son ami, Jésus. Il reste au plus misérable, écrit François Mauriac, au plus misérable d'entre nous, que les servantes et les soldats diront de lui pendant la nuit de l'agonie et du jugement, celui-là aussi était de ceux qui suivaient cet homme. Vous vous souvenez de ce temps, du texte de la Passion, hein? Celui-là aussi, en parlant de Saint-Pierre. Au vrai, nous ne le suivons pas seuls. Je ne songeais qu'à ceux de notre espèce, à l'élite pensante. Pourtant, les saintes et les saints, plus que jamais l'entourent, le pressent. Vous ne les voyez pas? Alors, il nous montre qu'il y a beaucoup de saints et de saintes autour de nous, parmi nous. Et souvent, on s'en rend pas compte. Il dit la vieille voiture noire, le misérable cheval, les petites sœurs des pauvres. Dans le temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, les petites sœurs des pauvres qui viennent prêcher à la cathédrale de Montréal pour obtenir quelques dollars pour aider les plus pauvres, ou du moins les gens âgés qu'elles aident, sur la rue Beaubien-Est, et partout dans le monde. Alors, la vieille voiture noire, le misérable cheval, les petites sœurs des pauvres, devant la porte d'un restaurant, n'attire l'attention de personne. Ni cette fille de la charité. Les filles de la charité, c'est celle de Saint-Vincent-de-Paul qui portait ses grandes cornettes blanches, elles avaient l'air des colombes dans la rue ou sur leur bicyclette. Ni cette fille de la charité qui passe les yeux baissés avec son cabas. Un cabas, c'est un panier de joncs. Nous écrivons des romans, c'est notre métier de connaître les femmes. Les pauvres Clarisses, les carmélites, les visitandines, et ces religieuses du tiers-ordre régulier de Marie, comme les franciscaines missionnaires de Marie, là, qui s'enferment avec les lépreux, nous savons qu'elles appartiennent à la même espèce que nos belles amies. Mais il ne faut pas qu'un miracle dure. Un miracle qui dure ne compte pas. La petite hostie quotidienne, il termine ce beau texte en disant, la petite hostie quotidienne, vous, des milliers et des milliers de ces filles d'Ève, pour ne parler que d'elle, à une vie de pureté, de renoncement total. Elles réduisent leur tendre corps, leur cœur, oui, leur cœur, et se font les servantes des derniers déchets humains. Encore une fois, ce miracle interminable ne prouve rien. La vraie souffrance du chrétien ne consiste pas à ne pouvoir suivre en paix sa convoitise. Il n'existe pour lui qu'une douleur. Selon le mot de Léon Blois, c'est de ne pas être un saint. La connaissance de sainte vie éveille dans le chrétien une honte et une tristesse qui ne vont pas au désespoir mais à l'amour. Cherche dans l'église près de la porte la place du publicain et regarde pendu à la croix cette pureté déchirée, cette chair nue. Oui, que cette distance entre vous ne te désespère pas, il fait toute la route. Mais ce n'est pas assez de sa grâce, de ses inspirations. Il pénètre lui-même dans ce bouge de chair et de sang. Il s'assied à la table encore salie. Oui, ce pauvre homme qui, dans mon enfance, venait chaque jour à la maison chercher les restes. Telle époque, ça, où les pauvres frappaient à nos portes. Je me souviens, il y en avait, autrement, qui frappaient puis qui montaient l'escalier pour aller au deuxième étage où nous habitions. Et puis ma mère les recevait puis leur donnait toutes sortes de choses. C'était comme ça. Pas si ça existe encore. Mais l'unique problème que Mauriac tourne et retourne depuis le début de sa carrière, c'était le problème du bien et du mal. Il était fasciné par ça. Parce que la vie de la plupart des hommes est un chemin mort qui ne mène à rien, disait-il. C'est triste, c'est vrai dans un sens. Hein? Que la vie de la plupart des hommes et des femmes est un chemin mort. Et il ne mène à rien en apparence. La question est de savoir si la vie humaine, ce n'est pas l'avènement du mal. Il a été hanté par ça. C'est un chrétien de naissance et de formation et de conviction. Hein? Puis il a parlé, Mauriac, avec discrétion des crises religieuses qu'il a traversées. Il a cru longtemps ne pas être capable d'appartenir ni à Dieu, ni au monde. Et ses romans disent l'abîme de son inquiétude. Dans ses romans, l'homme s'y défend devant son créateur. Et puis, l'homme, comme on le sait, et on le fait tous, je pense bien, moi du moins, on oppose à l'invitation de la grâce, aux sollicitations de l'Esprit de Dieu, des exigences de notre pauvre corps et de nos pauvres tentations et de nos pauvres désirs de toutes sortes, et la puissance des passions. Mauriac a insisté dans une page douloureuse, puis le cœur déchiré, sur les difficultés du chrétien. Puis il a exalté les joies de la retraite, de la solitude, puis du renoncement. C'est beau, la vieillesse, dans un sens. Ça nous permet de rentrer comme dans un cloître. Il a choisi, puis il parie, à la fin de ses jours, désormais pour Dieu. Il écrit encore dans Bonheur du chrétien, « Nous étions tous destinés à ce que l'on dise un jour de nous, c'est un homme fini. Le chrétien, dès que le pénètre la grâce, est un homme qui commence et qui se croit assuré de ne fléchir jamais. Et quel que soit son âge, il découvre d'abord cette joie de naître. Il est un nouveau-né, conscient de sa venue au monde, et joie de la naissance à la grâce. Oui, joie d'un petit enfant qui connaîtrait à la fois qu'il est pur, qu'il est aimé, qu'il aime, et qu'à cet amour, il sera donné pour s'assouvir la vie éternelle. » Ça me rappelle une conversion de mon fils à Québec, lors d'une plusieurs jours de retraite et de prière. Et il se disait, comme c'était une nouvelle naissance, il avait proclamé devant tout le monde, « Je suis comme un petit bébé. » Mauriac, d'ailleurs, c'est l'adolescence éternelle, et on ne saurait comprendre Mauriac si l'on ignore qu'à 20 mois, il a été privé de père. Il écrit, « Je ne me rappelle pas mon père, mais je me souviens du temps où ses traces étaient encore fraîches. Et quand ma mère ouvrait l'armoire de sa chambre, je regardais sur la plus haute étagère un chapeau melon noir, le chapeau de pauvre papa. » Il écrit ça dans « Commencement d'une vie ». On pourrait dire que le roman catholique a été préparé bien indirectement par Bourget, hein, et ses élèves, puis ensuite beaucoup plus sérieusement par Huysmans, dont je vous ai déjà parlé, Léon Blois aussi, je vous en ai parlé, approché par Gide, encore une fois, puis ça c'est dans La Porte étroite de Gide, hein, puis aussi par Émile Baumann, etc. Puis le roman chrétien va connaître, après 1920, sa plus belle époque, alors il faut d'ailleurs préciser qu'il prend alors une forme précisément catholique. Et autant qu'il était défendu d'être un romancier catholique, ne voulant être qu'un catholique qui fait des romans, eh bien, François Mauriac sollicite d'abord l'attention de toute une partie de la critique et des lecteurs pour avoir posé devant la conscience de l'écrivain, de la manière la plus précise et la plus intime, de la question du roman catholique, car il y a une question. Hein. Et le domaine du romancier, c'est la passion humaine. Et c'est donc presque fatalement l'empire du péché, c'est ça qu'on lui reproche souvent, d'être un peu trop noyé dans le péché. Pourtant, ce n'est pas vrai. Son affaire est d'occuper l'imagination du lecteur, évidemment avec les tentations du bonheur terrestre, avec les aventures, et toutes sortes de choses qui tournent autour de l'amour humain. À quoi le diable ne peut manquer de trouver son compte, d'ailleurs, peut-être. Il y a bien, sans doute, une certaine morale édifiante qui peut être tirée de ces fables, de ces romans. Mais d'abord, ce qu'il y a, c'est des incendies du cœur. Le cœur qui brûle. Et il y a une ardeur des flammes, parfois, qu'il décrit de façon absolument magistrale. Et ça peut nous effrayer parce qu'il y a une désolation dans toutes les cendres qui restent de ces amours éperdus et souvent contraires au vrai bonheur. Et il a toujours le souci quand même d'essayer très subtilement de coller, si on peut dire, une morale à ses récits. Ces grands romans lui ont valu le 10 décembre 1952 à François Mauriac le prix Nobel de littérature qu'il reçoit à Stockholm. Ça lui a été décerné, écrit-on, pour l'analyse pénétrante de l'âme et l'intensité artistique avec laquelle François Mauriac avait pénétré dans la forme du roman la vie humaine. Oui, il l'a interprété, disons, dans un style à la fois retenu et frémissant, très personnel. Ça se lit merveilleusement, dit François Mauriac, pour moi, en tout cas, comme, oh, j'aime beaucoup lire Mauriac. Pierre-Henri Simon voyait là, lui, c'est ce qu'il écrit, l'étoffe fournie par une sensualité ample et profonde qui livre à l'artiste la réalité concrète du monde extérieur et le rend intensément conscient de sa vie charnelle. Alors, il a écrit Le désir de l'amour, Thérèse d'Esquiroux, Destin, Le nœud de vipère, Le mystère Frontenac, Les anges noirs, dont on a fait un film dans les années 40, je crois, L'agneau. Oh, il y a des belles choses sur l'agneau. J'en ai trouvé au cours de mes lectures d'absolument superbes sur l'agneau. Non, l'agneau, c'est le triomphe de la grâce, qui est peut-être d'autant mieux assuré que la nature nous a été représentée plus confuse et plus immonde, et rien de plus téméraire dans ce livre que d'user d'un tel ressort hein, pour dénouer une histoire imaginaire. Aux dernières pages là, de l'agneau, on peut se poser des questions. Est-ce seulement l'autorité du romancier qui nous impose ce dénouement qui semble un peu facile? Non, il y a plus. C'est la conversion finale du personnage Jean de Mirbel qui s'accompagne d'autres remous spirituels. Cette conversion était l'enjeu même de l'espèce de pari qui a été engagé à la dernière minute. Et tout lecteur est conduit à la fin de l'agneau avec les personnages du livre vers une seule issue. Du moment qu'il est entré dans ce monde affreux qui n'a que le surnaturel pour revanche, pour consolation, car c'est toujours le surnaturel chez Mauriac qui console. Thérèse d'Esquiroux devait dire Mauriac au Grand Théâtre de Bordeaux, parce qu'il est de Bordeaux, c'est là qu'il a grandi, lors d'une soirée organisée à l'occasion de son 80e anniversaire. Il est mort à 85 ans, 1970. Mais Thérèse d'Esquiroux s'est reconnue à Stockholm. Elle est suédoise, elle est anglaise, elle est de tous les pays où il y a, dit François Mauriac, des femmes mal mariées et qui souffrent. La solitude des êtres, au sein de l'amour même dans un couple, la solitude de deux cœurs, qui sont au fond très souvent comme impénétrables l'un à l'autre, c'est là le sujet essentiel de ces romans, comme cet amour impossible d'un homme et d'une femme. Et encore plus grand, de deux hommes comme on le vante aujourd'hui, ou de deux femmes. Je crois, c'est ce qu'ils ont confié à Jean Amrouche, au cours d'entretiens radiophoniques, qui ont fait d'ailleurs un très beau livre, c'est François Mauriac, Souvenirs retrouvés, entretien avec Jean Amrouche et Fayard. Ça se lit, non pas comme un roman, mais ça se lit admirablement bien. Ce sont des entretiens radiophoniques, comme on n'en entend plus, je crois, de ce genre. Ça se fait plus, hein. Il y a des entretiens, mais c'est pas le même profondeur. Hein. Je crois, dit-il, que le vrai drame de mes personnages tient dans le titre d'un de mes romans, Le désert de l'amour. Et c'est cet enlisement dans la solitude qui les rend si pathétiques, ces personnages. Les œuvres, dit-il, qui sont demeurées vivantes dans la mémoire des hommes, c'est ce qu'il dit dans son discours de Stockholm, sont celles qui ont assumé le drame humain tout entier, et qui ne se sont pas dérobés devant l'évidente solitude sans remède au sein de laquelle chacun de nous a dû affronter son destin jusqu'à la mort. Cette solitude dernière, puisqu'enfin nous mourrons seuls. Il est donc hanté par la solitude. C'est pas nécessaire d'entrer à la grande chartreuse de Saint-Bruno. Un univers donc sans espérance peut-être, tel celui de Strindberg, ce grand écrivain suédois, mais ça aurait pu être celui de François Mauriac. S'il n'avait pas été possédé, lui, François Mauriac, dès l'enfance, par une immense espérance, et au long de sa vie, s'il n'avait pas été soutenu par elle, cette espérance. Que son œuvre soit sombre, il en convenait avec de bois d'effre, oui. Mais c'est parce que l'homme est à ses yeux une créature blessée, sinon corrompue. Et qu'un chrétien romancier ne peut pas, à moins de trahir la vérité de la nature humaine, éluder le mystère du mal. J'ouvre les guillemets. Qui se manifeste en nous d'abord, dit-il, et hors de nous, dans notre époque, dans notre propre histoire, oui, celle de nos passions, et dans l'histoire extérieure, celle que la volonté de puissance des empires écrit avec le sang des hommes. Et pourtant, son œuvre romanesque reste ouverte sur l'espérance d'être capable, en refusant le mal, de se sauver. Il écrit « Toutes mes créatures ne savent peut-être pas que Dieu est vivant, mais elles ont toute conscience qu'une part de leur être connaît le mal et pourrait ne pas le commettre. Elles savent ce qu'est le mal et elles ont tout le sentiment obscur que leurs actes les engagent et qu'ils retentissent dans d'autres destinées. » C'est donc parce qu'ils n'ignorent pas le mal et qu'il ne le mésestime pas, n'est-ce pas, que François Mauriac a animé toute son œuvre, immense, d'un souffle très spécial en son temps. Il ne méconnaît pas le péché, mais il sait qu'il est le péché. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Le péché nous est montré comme étant la merveille des merveilles, à la télévision, dans les films, dans les romans, partout. Vous êtes marié, soyez donc adultère. Vous attendez un enfant, vous voulez pas avorter. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Mais lui, il méconnaît pas le péché. Il sait qu'il est le péché, c'est-à-dire une inclination de la nature, mais qui entache cette nature. Ça alourdit l'âme qui a peine à rencontrer son Seigneur, Dieu. Qui seul est la source de la grande joie. C'est un scruteur d'âme que François Mauriac, et il découvre dans le péché toute l'ambiguïté de la nature humaine. Un roman, pour lui, c'est l'histoire des rapports entre les êtres, puis tout rapport entre les êtres implique, en fin de compte, le rapport de chacun d'eux avec Dieu. Et ce qui lie les êtres dans l'humain, les sentiments, les passions, et finalement, où l'imparfaite préfiguration ou bien l'atroce caricature d'une figure éternelle. Et le double versant où il s'est efforcé, parfois difficilement, de maintenir son œuvre, mais ça culmine à cet observatoire, là. Vous savez, comme sur le Mont-Royal, il y a un observatoire, où le romancier assiste à la lutte de la grâce et du mal. Et on voit ça dans Génitrix, dans Nuit de Vipère. Et puis, mais le plus souvent, le roman de Mauriac, c'est le récit d'un conflit incertain, c'est la tension du roman qui naît de ce conflit et de son incertitude. Et le romancier a retrouvé ainsi comme la pulsion même de la vie humaine. Et c'est pour avoir restitué dans sa création romanesque une connaissance de l'homme dans sa globalité, âme et corps, bien et mal, surnature et nature, que Mauriac est un authentique écrivain catholique. Et c'est aussi pour cela que son œuvre, un catholique universel, qui lui a donc mérité le prix Nobel en 1952. Mauriac, quand il a reçu le prix Nobel à Stockholm en 1952, a dévoilé à son auditoire suédois que le secret de son inspiration, ça lui venait de sa vision biblique de l'homme. Il leur disait, pour mes héros, si misérables qu'ils soient, vivre, c'est avoir l'expérience d'un dépassement infini d'eux-mêmes. Une humanité qui ne doute pas que la vie est une direction. Elle a une direction, la vie, oui. Qu'elle a un but. Qu'elle ne saurait être une humanité désespérée. Le désespoir de l'homme, dit François Mauriac, le désespoir de l'homme moderne, est né de l'absurdité du monde. Son désespoir et aussi sa soumission au mythe de remplacement. L'absurde livre le monde à l'inhumain. Lorsque Nietzsche constatait la mort de Dieu, dit Mauriac. Il annonçait du même coup les jours que nous avons vécus. La guerre abominable. Et ceux que nous avons encore à vivre, où l'être humain, privé de son âme, a donc frustré d'une destinée personnelle. Il est frustré de sa destinée personnelle. L'homme aujourd'hui n'a pas d'âme. On a vu les funérailles d'un grand comédien admirable qui se sont faites sans prière, semble-t-il, et sans rien de ça. Pourtant, ce sont des hommes admirables que nous aimons beaucoup. Et l'homme, donc, l'être humain, privé de son âme, est soumis aux pires contraintes. Quant au mythe de la révolution aujourd'hui dévaluée, qui, selon Malraux, devait jouer le rôle que joua la vie éternelle, Mauriac le récusait en disant « Et si le mythe, c'était la révolution, et la vie éternelle, la seule réalité ?» Oui, la vie éternelle, la seule réalité. C'est peut-être ça qu'il faut apprendre à comprendre, apprendre à vivre. Parce que sans ça, est-ce que ça vaut la peine de vivre? L'espérance chez François Mauriac était donc liée à sa foi. Ça en découlait. C'est une foi que rien n'a altérée, jamais. Il n'a jamais rougi de l'affirmer publiquement. Il en a clairement témoigné, d'ailleurs, dans son journal, dans les mémoires intérieures, dans ce que je crois, ou ce que je crois, il a dit des choses absolument superbes, dans ce que je crois paru chez Grasset. C'est tellement beau, tellement beau. Je vous en lis un petit passage. Aucune des critiques adressées aux structures humaines de l'Église ne m'atteignent plus. Le pire de ce que j'y découvre dans le passé ou de ce que j'observe aujourd'hui dans l'Église me laisse indifférent, parce que l'Église constitue à mes yeux l'ensemble des moyens humains que la grâce utilise pour féconder chacune des âmes qui ont recours à cette source d'eau captée à Rome. On me dira que je suppose le problème résolu et qu'il faudrait d'abord répondre à la question « Qu'avez-vous cru au départ avant de vous fixer sur une religion particulière? L'acte de foi chez vous, comment naît-il et se manifeste-t-il? » Il répond que la vie n'est pas de direction ni de but, que l'homme n'est pas de destin. C'est ce que je suis incapable de croire. Comme je le suis de récuser le témoignage de la pensée, de la parole, du visage pris en eux-mêmes, et plus encore peut-être de leur expression dans l'art humain, l'art serait pour moi le témoin irrécusable du Dieu qui est l'amour. Il est amour. S'il n'y était cet autre témoin au-dedans de moi, cette conscience qui me juge, et que j'interroge, et qui me répond, et dont relève la pensée la plus cachée, cela peut sembler bien misérable aux philosophes. Je ne cherche pas ici à éblouir de raisons flatteuses ceux qui me liront, mais à leur donner les raisons véritables de ma foi. Et ça se continue comme ça pendant des pages et des pages, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Puis il y a le bloc-notes aussi, puis le Jeudi Saint, puis la vie de Jésus. Ah, la vie de Jésus qui a été lue par des millions de gens. Ah, je vous en lis un petit extrait qui est beau, 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 c'est six lignes. Il parle de Jésus, là, qui rassure les siens. On a tellement besoin aujourd'hui d'être rassurés. Il dit « Jésus sorti paisible dans un silence de mort, maître de lui, car ses violences même étaient mesurées, réglées par son Père. Et des milliers d'hommes le suivaient, au point de se fouler les uns les autres, dit Saint-Luc. Car Jésus parlait avec autorité. Et ce que beaucoup de ces pauvres gens pensaient tout bas, lui le proclamait au péril de sa vie. » Et il y a aussi un prêtre français, Gaston Fournier, qui a écrit des choses magnifiques en parlant de François Mauriac. « L'incarnation de Dieu répond merveilleusement, comme jadis pour Saint Jean, à l'horreur de l'abstraction qui caractérise François Mauriac, à sa soif d'un divin accessible aux sens. « Je crois en vous, dit François Mauriac, parce que vous êtes venu, en un moment de l'histoire, Dieu, et pourtant homme entre les hommes, corps qui a pu être dévêtu, flagellé, couvert de crachats, poitrine qui a supporté le poids d'une tête amie, joue sur les lèvres de Judas ont touché. Et Mauriac savoure ce Bossuet qui médite sur les pieds du Christ lavé, baisé par Marie-Madeleine, et qui ose écrire cette phrase étonnante. Les parfums, les larmes, les baisers, les cheveux, tout y va. Il nous le révèle formellement. Dieu incarné dans le Fils aura occupé dans ma vie la place d'une amitié souvent importune, de cette importunité que nous reprochons à ceux qui nous aiment plus que nous ne les aimons. C'est vrai que Jésus nous aime plus que nous les aimons, que nous l'aimons. Et dans le début de ces pages immortelles de Pascal, choisies et expliquées par François Mauriac, paru il y a bien longtemps, j'avais acheté ça en 1941, c'est pas d'aujourd'hui, il écrit au sujet de Pascal quelque chose qui peut nous faire réfléchir beaucoup. Je le lisais à un ami qui perd beaucoup de temps à voir et à manger et à aller un peu partout, alors que il écrit sur Pascal, son corps le trahissait. Rien n'exige plus de santé que le plaisir, parce que Pascal sortait beaucoup. Les manuels de littérature, puis les dictionnaires aujourd'hui, au XXe siècle, donnent comme cause déterminante de la conversion de Pascal un accident de voiture au pont de Neuilly. Mais, dit Mauriac, bien avant le jour où les deux chevaux ont pris le mort aux dents et se sont précipités dans l'eau, il a dû maintes fois sentir au milieu de ses amis, plein de force et d'entrain, la fatigue profonde d'un homme différent de tous les autres et dont la nature n'est pas de se divertir, mais de se concentrer, et qui s'efforce de vivre hors de soi lorsque tout son génie, au fond, le porte à se replier pour se mieux connaître et finalement pour penser à Dieu. Peut-être faut-il avoir été jeune en 1936, quand est parue La vie de Jésus, pour saisir tout ce que ça apportait à une génération. On ne parlait que de La vie de Jésus de Mauriac dans mon jeune temps, je me souviens. Que le christianisme n'est ni une philosophie, ni une règle, mais un amour, c'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il a apporté. D'une façon presque violente. L'adhésion à la personne du Christ vivant. Voilà ce qu'on trouve dans La vie de Jésus de Mauriac. Donc, qui était peut-être un peu dépassé sous certains rapports, mais mon Dieu que j'aime ce livre quand même. Avoir la foi chrétienne, c'est avoir une confiance illimitée en Jésus-Christ. Et dans les pages de ce livre, « Vie de Jésus » de François Mauriac, mais Jésus me regarde, comme il a regardé Pierre alors que le coq chantait. Le jour se levait dans son pauvre cœur, écrit Mauriac, tout sorti de la nuit, tout s'éclairant en lui. Poussé en avant par des valets, un homme apparut, les poings liés, un gibier de potence et de bagne. Et Jésus regarda Pierre. Il fit tenir dans ce regard un trésor infini de tendresse et de pardon. Oui, désormais, après avoir lu ça, on ne peut que s'empêcher de voir dans le Christ en croix le visage de Dieu, l'amour sans mesure. Il écrit... C'est la face souffletée et meurtrie à cause de nos crimes. C'est le regard passionné et triste qui nous suit au cours de notre vie, de chute en chute, sans que l'amour dont il nous couve faiblisse ni se décourage jamais. Et depuis sa publication, ce livre, « Vie de Jésus », a été lu par des millions d'hommes et de femmes qui ont été touchés au tréfonds de l'âme, tout comme ses premiers lecteurs, par le visage, que dans l'auberge d'Emmaüs, Cléophas, là, puis son compagnon, vous vous souvenez, hein, reconnaissent le lendemain de la résurrection, à la fraction du pain. Notre frère couvert de blessures, notre Dieu, dit Mauriac. Ce visage, Mauriac l'a vu. Il nous a rappelé qu'il fallait le voir en tout homme opprimé, torturé, rejeté, désespéré, en prenant position contre tous les totalitarismes. En dénonçant le mépris de l'homme qui sert de fondement à toutes les doctrines de mort qu'on trouve depuis l'apparition en particulier du communisme et de tout cet athéisme qui recouvre la terre. C'est encore pire que ce que nous, chrétiens, pouvons faire. Et Dieu sait que nous avons fait de mauvaises choses. C'est triste, et le pape en demande pardon. Mais les athées, c'est terrible ce qui se passe. Pitié pour les athées, Seigneur. Ces hommes qui te cherchent au fond. Oui. Il s'est élevé contre les philosophies de l'absurde, Mauriac, les philosophies du néant, au nom de l'espérance qui fondait sa croyance inébranlable, en l'insertion de l'éternité dans le temps, l'éternité sincère dans le temps continuellement. Dieu est toujours là, et à mesure que les années passent, et que selon le mot de Lacordaire, il avait écrit une vie de Lacordaire qui s'est perdue durant la guerre chez l'éditeur, eh bien les ombres de la vie grandissent derrière nous. La page de la vie de Léjus sur l'auberge d'Emmaüs prend toute sa signification. À qui d'entre nous, écrit-il, l'auberge d'Emmaüs n'est-elle familière? Qui n'a pas marché sur cette route un soir où tout semblait perdu? Nous suivions un chemin, quelqu'un était à nos côtés. Nous étions seuls, et nous n'étions pas seuls. C'est le soir. Voici une porte ouverte, cette obscurité d'une salle où la flamme de la cheminée n'éclaire que la terre battue et fait bouger des ombres. Ô pain rompu, ô fraction du pain, consommé, malgré tant de misère. Ô reste avec nous, car le jour baisse. C'est un moine de l'abbaye Sainte-Marie de Paris, qui a souvent rencontré Mauriac, qui a témoigné, le Christ de Mauriac avait surtout le visage que décrit Saint-Luc, c'est-à-dire un Christ-Dieu proche des pécheurs. C'est l'évangile de la tendresse de Dieu, du pardon, de la miséricorde, de la pécheresse aimante, de la parabole de l'enfant prodigue. Oui, c'est le Christ de l'Eucharistie. Son Christ, dit donc Gosier, car c'est son nom, c'est celui du Saint-Augustin des Confessions, de Marguerite de Cortone, celui de Charles de Foucault au Sahara, celui des pécheurs qui ont réalisé d'une façon aiguë le pardon de Dieu. C'est aussi celui de Pascal, le Dieu caché qui le retient particulièrement. Au fond, c'est une approche très personnelle de Dieu. Oui, le christianisme pour Mauriac est un contact de personne à personne, le lien intime qui unit à son Créateur étant l'humanité de Jésus. Combien de fois n'a-t-il pas cité Newman? Moi et mon Créateur, oui, le Christ de Saint-Luc, ce Christ sensible, ce Christ souffrant, ce Christ présent dans l'Eucharistie, Mauriac le rejoignait par la liturgie. Mauriac disait, il n'y a qu'à se laisser porter par ce grand fleuve. Oui, c'est dans la communion que sa foi s'alimentait. Et donc Cosier dit, je le revois, refermant son manteau doucement sur cette flamme, au plus intime de son être, sur cette palpitation de l'amour captif. C'est là qu'il recevait cette certitude que Dieu nous aime. Il y a tant de choses à lire de Mauriac et sur Mauriac. Jean Lacouture m'avait apporté ici chez moi ce beau François Mauriac qu'il a écrit, qui est une somme avec des photos à la fin, c'est fantastique. Et ça a combien de pages? Plus de 600. On y trouve des trésors. C'est paru aux éditions du Seuil. Hein? Et je l'avais reçu avec Madame Lacouture, sa femme. C'est vraiment une soirée magnifique avec Jean-Étienne Blais. Et on peut lire de François Mauriac, pour ceux que ça pourrait intéresser, ce roman Un adolescent d'autrefois. C'est très intéressant, je vous le signale parmi tant d'autres. Je ne peux pas tout signaler. Et aussi un livre que beaucoup de gens ont apprécié, c'est Mémoires intérieures et Nouveaux Mémoires intérieures. Un livre raisonnablement considérable, mais qui était très intéressant, paru en 1985 chez Flammarion. Bon. Pour autant que Mauriac ait été étudié, puis son œuvre est disséquée, par beaucoup d'universitaires et de spécialistes depuis sa mort, il y a, comme le dit bien Jean Peyrade dans un petit livre, il y a une part capitale de son catholicisme qui n'a pas été soulignée suffisamment, puis c'est justement celle de sa vie sacramentelle dont je viens de vous glisser un mot avant la pause. La place qu'il a donnée dans sa vie à l'Eucharistie, c'est extraordinaire. Il a cru en effet fortement à la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Et il a porté publiquement témoignage à cette croyance. À maintes reprises, il a évoqué sa première communion, d'ailleurs, dans les bloc-notes du 30 août 1969. Il dit, « J'ai tant aimé l'Eucharistie que je demande au Seigneur d'être, en mourant, pareil à ce petit garçon émerveillé du 12 mai 1896. » Rien n'a jamais ébranlé sa foi en la présence réelle. Il a porté l'Eucharistie dans son cœur. Il apportait à l'Eucharistie le respect immense que lui portaient les catholiques de sa génération qui ne communiaient qu'après s'être confessés. Saviez-vous ça? Ceux des générations suivantes, la mienne, jusqu'à la fin des années 50, ont eu un peu le même comportement, ayant également appris qu'on ne pouvait recevoir le Christ qui a assumé tous les péchés des hommes, qu'après avoir reçu son pardon par l'absolution dans le sacrement qu'on appelait la pénitence. Savez-vous que quand on se confessait, on pouvait prendre la 20e place d'un côté du confessionnal, puis il y en avait 20 autres de l'autre côté, ça faisait 40 personnes qui passaient avant nous. On attendait une heure et demie, debout. C'était comme ça quand j'étais jeune. Témoignent de ce respect ces paroles que le père Samson a adressées aux hommes réunis à Notre-Dame de Paris le matin de Pâques 1925 pour la messe de communion. Le père Samson disait, en vous agenouillant à la table sainte, on ne s'agenouille plus pour communier, on communie debout. Hein. En vous agenouillant à la table sainte, vous allez accomplir l'acte auguste de recevoir votre Dieu. Comme j'aime communier à genoux personnellement. Me jeter à genoux devant Dieu, qui se fait tout petit, ben je me fais petit. Mais c'est pas toujours facile. Hein. En dépit de toutes sortes d'interruptions, d'intermittences, il a traversé une crise. Il en est question dans la souffrance du chrétien. Tout comme dans l'évocation à la fin de la vie de Jésus, du soir où tout semblait perdu. Ça m'est arrivé, moi, pendant 7 ans. Mais Mauriac avait gardé au secret de lui-même une reconnaissance éperdue pour tout cet amour du Christ, sa sollicitude. Ça lui arrachait un cri, « Ô fraction du pain consommé après tant de misère !» Il gardait à l'Eucharistie une place qu'aucun autre amour n'avait pu lui ravir. À chaque communion nouvelle, il pénétrait plus avant dans le mystère. Pour lui, communier, c'était recevoir le Père en lui par une présence unique singulière qui ne se confond pas avec celle de l'état de grâce. « Là où je suis, dit Jésus, mon Père est là, et là où mon Père est, je suis. » À 81 ans, le 13 avril 1966, François Mauriac déclare dans une conférence au Congrès eucharistique de Bordeaux, « Nous serons restés fidèles jusqu'à la fin, à celui que nous avons aimé au départ dans la fraîcheur d'une aube de mai, et qu'à l'extrême soir de la vie, nous reconnaissons une fois encore à la fraction du pain dans l'auberge assombrie d'Emmaüs. Puisse-t-il être là, de communion en communion jusqu'au dernier passage, alors il sera avec nous. Mais il est d'or et déjà lui qui ne nous aura quittés à aucun moment de notre vie, jamais si près de nous que lorsque nous l'aurons cru très loin. Ah, la vie sacramentelle, c'est déjà l'éternité commencée, dit Mauriac. Le recueillement de la communion nous permet peut-être de pressentir ce que sera ce moment éternel que nous appelons le ciel. Le recueillement, oui. Le moment de l'action de grâce personnelle dans le silence d'adoration que nous devons faire souvent sur le trottoir parce qu'on ferme l'église. L'église n'enseigne-t-elle pas que Dieu lui-même, qu'on adore en son Fils Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu lui-même. Rien ne doit troubler ni remplacer le recueillement de quelques minutes de silence après la communion, écrit le cardinal Lustiger dans son livre sur la messe. Moment unique où la sainteté du Christ nous pénètre, dit le cardinal, nous purifie, nous éclaire et nous fortifie dans un cœur à cœur silencieux. C'est dans le Jeudi Saint, un ouvrage de Mauriac, qu'il a surtout approfondi le mystère eucharistique, tout en décrivant les offices de la Semaine Sainte. Il est revenu dans les nouveaux mémoires intérieures sur le mystère, pour dire que l'Eucharistie ne fut jamais pour sa foi une pierre d'achoppement, mais une nourriture. Et même dans ce que je crois, il dit, oui, il est étrange que l'Eucharistie qui constitue dans le mystère chrétien ce qui défie le plus la raison, m'aide à croire, me rende facile la foi à ce Dieu qui se réduit aux proportions du dernier d'entre les hommes et de la plus pauvre femme, mais jusqu'à se donner à eux, s'il le désire, en nourriture. Il a écrit de si belles choses. Quel homme extraordinaire. Vous pouvez lire sa vie de Jésus chez Flammarion, le Jeudi Saint, ce que je crois, paroles catholiques, nouveaux mémoires intérieurs. Oh mon Dieu, puis Pierre-Henri Simon qui a laissé un Mauriac par lui-même aux éditions du Seuil, puis toujours Jean Lacouture, son immense François Mauriac. J'aurais le goût de dire Saint-François Mauriac, comme d'autres l'ont dit, Pierre de Boisdeffre. Aidez-nous à aimer l'Eucharistie comme vous l'avez aimé, et à supporter dans la douleur la distanciation ou la non-foi de nos enfants, ou vous qui étiez le père de Claude Mauriac, que j'ai bien connu, qui avait tant de difficultés à croire, et qui en souffrait beaucoup, et qui est mort maintenant, Claude Mauriac aussi, un grand écrivain encore.